Puis d'une certaine façon, je vous dirais des fois, on est un peu jaloux d'entendre ce qu'on entend parce qu'on dit, je suis béni avec ça, puis j'aurais rajouté quelque chose, il me semble. Ça, c'est pas à toi de le rajouter à ce moment-là. Mais quand c'est le temps à toi de venir prêcher quelque chose, tu dis, bon, mais là, il y en a bien des sujets, Seigneur. Là. Lequel je vais choisir? Puis là, on demande au Seigneur, est-ce que je peux avoir un sujet qui va être le sujet de cette semaine-là qui va donner de l'élan à ton peuple, qui va lui donner du courage, qui va lui donner de l'enthousiasme, puis qui va le faire comprendre des choses. Parfois, on a sur notre cœur, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui entend vraiment audiblement des voix. J'aimerais ça, parfois, mais disons que non, pas à ce point-là, mais j'ai des pensées qui me viennent bien claires, j'ai des convictions profondes qui me disent, bon, ben ça, c'est quelque chose qui te touche toi, donc ça devrait toucher aussi, parce que on est tout le monde pareil, on est tous des enfants du Seigneur quand on le cherche. Et aujourd'hui, ben j'ai un sujet qui est un sujet délicat, mais qui est un sujet qu'on connaît tous, on a tous entendu parler de ce sujet-là. Par contre, souvent, on peut entendre parler de certaines choses, mais c'est comme si c'est pas pour nous. C'est comme si ça a été écrit pour d'autres. Puis là, on peut se poser la question. Aujourd'hui, si je vous demande, ceux qui connaissent le Seigneur ou qui ne le connaissent pas encore, de lever la main, ça me permettrait d'évaluer comment je vais livrer un peu le message, pas que je vais l'adapter, mais à tout le moins, je vais faire attention sur certains points. Mais si je fais affaire avec des gens matures dans la foi, qui disent « Non, 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 vas-y, mon homme, je veux entendre ce que tu as à dire », ben à ce moment-là, on y va de cette façon-là aussi. Pas que je veux restreindre un message, mais je veux que ce soit bien compris, parce que le but de quel que soit le message, c'est qu'il soit absorbé pour ce que le Seigneur a à faire dans le cœur de celui qui le reçoit. C'est un petit peu différent, des fois, de un, parce que nos expériences sont différentes, nos qualités, je dirais même jusqu'à un certain point, nos audaces. On est dans un pays où on peut vraiment être libre et il n'y a pas tant de danger à s'exprimer, quoique le jugement est fréquemment là pareil. Puis on souffre de ça, puis on vit dans nos familles, on vit dans notre travail, on vit partout. Ça fait qu'aujourd'hui, le sujet, c'est quelque chose qui est particulier. Je vous dirais que, je vais juste enlever mes lunettes, parce que là, je ne vous verrai plus, mais je vais voir mon texte. Je sais que vous êtes là pareil. Quand j'ai préparé ce message-là, j'avais des passages bibliques en tête. Puis cette nuit, je me suis réveillé avec un passage biblique que ça m'a simplement dit, rajoute-le avant de commencer. Puis je savais pas vraiment pourquoi que ça me sortait comme ça. C'est dans Hébreux 3.15. Il n'y a pas de diapo pour ça. C'est « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Puis là, j'ai dit « Seigneur, pourquoi est-ce que je devrais commencer avec un passage comme celui-là? » C'est parce que parfois, on n'entend pas sa voix. Parfois, on veut pas entendre sa voix. Et parfois, quand on l'entend, ça fait pas la réaction qu'on devrait être, qui est celle d'obéir, mais c'est plutôt qu'on endurcit un peu notre cœur. Il faut pas que ça arrive aujourd'hui, avec le message que j'ai à vous apporter. Je vais partir avec une espèce d'exemple parallèle. Là. Le Seigneur, il prêchait beaucoup en donnant des exemples qui étaient d'actualité. Moi, je vais appeler ça l'exemple du somptueux buffet. La personne, elle a faim. Puis il y a quelqu'un qui cogne à l'endroit où elle est, puis il dit « T'as faim? Suis-moi. » Puis à ce moment-là, il l'amène dans un somptueux buffet. La personne est émerveillée parce que là, elle est nourrie, mais pas seulement nourrie, elle est nourrie au-delà de ce qu'elle aurait pensé recevoir. Puis là, elle dit « J'aime ça. » Fait qu'elle reste là. Puis quand ça serait le temps, parce que là, elle est repue, elle a bien mangé, tout est bien, ben elle a une petite crainte de « Si je m'en vais, je vais-tu pouvoir revenir? » Fait qu'elle reste là un petit peu plus longtemps. À un moment donné, elle est confortable, là. Elle, là, je suis bien, il y a de la bouffe tant que j'en veux, il y a des gens intéressants autour, donc j'aime ça. Puis un jour, elle dit, bon, OK, c'est peut-être le temps que je vais faire un petit tour dehors. Là, quand elle sort dehors, elle voit qu'il y a d'autres personnes qui ont faim, mais je veux pas les déranger. Mais toi, quand ils t'ont appelé, ça te dérangeait-tu? Ben non, mais moi, ça a donné de même, là. OK. Mais tu veux pas déranger les autres. Tu dis, ben, si je lui présente ça, ils vont prendre ça comment? C'est un repas-là. Je vais-tu lui dire de me suivre, puis je vais faire ce que l'autre a fait pour moi? Puis on a toute une espèce de réaction, parce que là, on se dit, pourquoi est-ce que je voudrais pas présenter quelque chose comme un buffet somptueux à quelqu'un qui a faim, quand moi, je n'ai bénéficié, puis je l'ai eu moi aussi? Notre première réaction, c'est peut-être parce que l'amour est pas là. C'est peut-être parce qu'on s'aime soi-même trop, puis peut-être pas assez celui à qui on pourrait proposer le repas. C'est peut-être parce qu'on s'est engourdi justement dans le fait qu'il y a de la bouffe pour tout le monde, puis bon, ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont été invités. Moi, je suis pas responsable d'inviter. Moi, il y a quelqu'un qui m'a invité, mais moi, j'ai pas à inviter personne au buffet. C'est un exemple qui a rien à voir avec l'enseignement concret de la parole. C'est pas dans la Bible, ça, ce buffet-là, malgré qu'il va y avoir un somptueux buffet pour nous un jour. Mais je voulais l'apporter comme préparation au message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, si on prend la première diapo, vous allez voir tout de suite de quoi je vais parler. Pêcheur d'hommes, gagneur d'âmes. Comment on peut pêcher des hommes sans gagner des âmes? Si tu pêches un homme, c'est certainement pas pour ses grands pieds ou pour son apparence ou pour quoi que ce soit. C'est parce que tu veux gagner son âme. L'âme, on le sait, on en a discuté, c'est le vrai moi, ça. Mon corps, lui, il peut changer, être modifié, il peut être faible, il peut être fort, il peut être malade, il peut partir. Mais notre âme, non. Alors, évidemment, nous, on veut gagner des âmes. C'est pour ça que je dis que quand on parle à des nouveaux chrétiens qui viennent d'arriver, peut-être que pour eux, c'est quelque chose de particulier parce qu'eux-mêmes ont peut-être pas encore été invités au buffet ou ils viennent peut-être d'arriver au buffet. Ils se disent, ben là, je vais commencer par bouffer un peu, là. Puis après ça, ben, j'irai en chercher moi aussi pour dire de venir manger. Mais si c'est l'intention, c'est merveilleux. Si ceux qui les amènent au buffet leur donnent le goût, un, d'en manger, de se nourrir, de se régaler, de découvrir comment c'est bon, pour aller après ça, aller en chercher d'autres, c'est extra. Puis t'as pas besoin d'avoir 40 ans dans le Seigneur pour faire ça, là. Après que tu y as goûté, fais-le goûter à d'autres. Alors, c'est ça. La deuxième diapo, on parle de l'ultime mission. Parce que quand on se pose la question, c'est quoi la mission? Je parle avec des amis, je parle avec des frères dans le Seigneur, puis que, évidemment, ils ont accepté, ils ont aimé, ils aiment le Seigneur, ils font les choses de leur façon. Puis derrière nous, on sait que la mission ultime, c'est vraiment de gagner des âmes. Alors, pour gagner des âmes, j'ai bien du stock à dire, mais ça commence par une déclaration de Jésus. Jésus, on voit dans Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19, il dit, « Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Dans cette phrase-là, là, ça commence par un « suivez-moi ». Ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de le suivre, que j'ai ma vie à vivre, puis Dieu il marche avec moi. C'est bien, mais il faut le faire marcher en avant de nous autres aussi, hein? Alors, il dit, suivez-moi. Puis là, il fait une déclaration, il dit, je ferai de vous. C'est qui, vous? Vous, c'est nous? Ben non, nous, c'est vous, OK. Puis il dit, je vais faire des pêcheurs d'hommes. OK, on peut attraper du bon poisson, on peut faire toutes ces choses-là. Mais quand on attrape le poisson, c'est pas pour le jeter dans les poubelles. Hein, c'est pour le manger. C'est à tout le moins pour faire de ce bien-là un bénéfice pour quelqu'un. On a vu comment le Seigneur s'est servi des petits poissons pour nourrir des foules. Jésus nous dit à diapo 4, il nous dit quoi faire. Dans Matthieu 28, 16 à 20. Puis, j'espère que vous pouvez le lire, c'est pas trop petit. J'ai mis en rouge des points parce que c'est un peu un petit sommaire, une petite conclusion, mais je vais lire le texte parce que le texte a bien plus d'importance que la conclusion que moi je peux en faire. Les 11 disciples, il en manquait un, vous vous souvenez duquel? partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. Alors, on doit comprendre tout de suite là que si Jésus leur a dit d'aller là, il l'a fait dire, mais quand même, il leur a dit d'aller là, alors il faut entendre sa voix. Si on n'entend pas la voix du Seigneur, on marche pas vers le lieu où il va nous attendre. Puis il faut lui obéir. Après ça, en voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Ça prend la foi. Puis j'ai trouvé ça particulier parce qu'on dit « en voyant Jésus, ils l'adorent ». Mais certains hésitent à croire. Écoute, il est devant toi, tu l'as vu mourir, tu hésites à croire. Ça me fait penser à moi souvent, ça. Je l'ai vu dans ma vie, Seigneur, agir. Puis de temps en temps, je vais mettre ça sur le dos d'un mot qui ne devrait pas exister, qui s'appelle le hasard. Ou bien que c'est arrivé parce que c'est arrivé, puis j'y accorde pas à l'auteur de la vie, celui qui a fait que c'est arrivé. Alors là, on dit qu'il faut avoir la foi. Après ça, il dit, Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui peut se vanter de dire, moi, j'ai reçu tout pouvoir. Qui disait tout, c'est tout? Ruben, hein? Parce que tout, c'est tout. Hey, tout pouvoir. Il dit qu'il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Fait que nous, on doit avoir, par cette parole, qui est une vérité de Dieu, la certitude de la toute-puissance de Jésus. On prie parfois, on a la conviction qu'il nous entend parce que la parole le dit, mais on se dit, oh, il est trop occupé. Il y a d'autres choses à faire, il y a peut-être plus important. Si ça arrive pas, ben je voudrais pas le dire. Parce que si ça arrive pas, ils vont dire, hein, ta foi est pas si grande, hein, ton Dieu l'a pas guéri. Puis là, il y a quelqu'un qui nous souffle dans l'oreille toutes sortes de choses à penser. Puis effectivement, celui qui veut pas que Dieu prenne une place importante puis que les gens entendent parler de lui, c'est le genre de message qui va nous souffler dans les oreilles. Et pourtant, nous, on dit, non, j'accepte pas ça. Il est tout puissant au ciel et sur la terre. Puis quand on prend ça, on demande des choses qui sont en accord avec lui. C'est certain que je dis, Seigneur, je viens d'acheter un billet, loterie, je vais te donner le numéro, là, arrange-toi pour qu'il gagne. C'est peut-être pas sa volonté, pas du tout, là. Premièrement, achète pas le billet, t'as pas besoin. Il y a quelqu'un qui va faire réaliser tes vœux, mais choisis tes vœux. Alors ici, ça dit, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. C'est aller, c'est de l'action. Aller où? Partout. Bon, mais quelqu'un il dit, moi je vais aller au bout du monde. Ouais, mais partout, c'est au dépanneur du coin aussi. Moi, je me souviens d'avoir été à la pêche, le lac avait 70 000 de long, j'avais un gros bateau, on allait pêcher au bout du lac. Puis quand je revenais le soir, les deux petits vieux qui étaient à côté de nous autres, qui eux autres se donnaient pas le trouble, pêchaient autour du camp. Il y avait plus de poissons que nous autres, puis c'était reposé plus que nous autres. Mais pourtant, on disait, on est allé au bout du lac, c'est bien, on a exploré le bout du lac, mais si c'était pour capter puis pogner des poissons, ils en ont pris plus que nous autres. Alors, faut pas toujours souhaiter l'endroit idéal, le lieu idéal, le moment idéal. Non. Jette ta ligne autour du boat. Ça va arriver. Tu vas en attraper. Par contre, si tu jettes ta ligne, ça serait une bonne idée de mettre un appât après. Tu peux peut-être accrocher si t'es chanceux, mais généralement, ça prend quelque chose qui va attirer le poisson pour qu'il veuille mordre dedans. Alors, faut aller au bout du monde. Puis là, à 20, on dit, apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Faut apprendre aux autres à obéir à tous les commandements. On dit, attends, là, ils les connaissent pas, tous les commandements, puis moi, j'ai pas le pouvoir de les faire obéir. Ça s'arrête pas là. Il dit, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand quelque part, s'il te le dit, il dit pas que c'est toi qui vas le faire, il dit c'est moi qui vais être avec toi tous les jours du monde. Alors, accompagné par Jésus à chaque jour, on peut leur apprendre ce que Jésus nous a donné à nous, qui est le salut. Alors, très important, la parole de Dieu, elle est vérité, puis cette vérité-là doit, comme un bon café qui va percoler va rentrer, puis le goût vient après que ça a trempé un certain temps. Il y a une question de chaleur, il y a une question de goût, puis il y a une question de désir. Faut souhaiter entendre parler de la parole de Dieu. Faut souhaiter que Dieu nous touche. Il y a des vérités. Si on va à l'autre, à la 5, vérité et fondement sur mon âme. Vous savez, moi j'ai souvent parlé de l'âme, parce que quand je vous parle, ça c'est un petit fantasme que j'ai, mais je me dis, je parle à des âmes qu'un jour je vais voir, qui vont être dans un corps régénéré, un corps glorifié, un corps très différent. Alors je m'imagine un peu ce que vous allez avoir l'air. Fait que si je vous trouve beau, c'est pas parce que j'ai l'air épais, c'est juste que je pense que je vous trouve beau. Je vous vois comme Dieu vous voit. Pas toujours comme nous on se voit, j'aurais peut-être des courbes en moins sans ça. Mais disons que c'est important de voir qu'il y a des fondements. Dans Deutéronome 6, 5, il y a quelque chose qui est très important parce qu'on ne peut rien faire si on ne commence pas au début. Puis le début, c'est pour Dieu. C'est pour ça que j'ai marqué en rouge pour Dieu, pour notre prochain, puis pour soi-même. Pour Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On voit que le cœur est un petit peu distancé de l'âme, puis ta force est distancée aussi. Dieu nous a donné des capacités. Quand on dit de tout ton cœur, lui, il est situé en quelque part. Ton cœur, c'est un caractère, c'est ta personnalité en Christ. Puis ce cœur-là se situe dans l'âme, parce que ton âme, c'est toi, mais ton âme, elle se nourrit. De quoi qu'elle se nourrit? Elle peut se nourrir de choses qui viennent pas de Dieu, mais elle peut se nourrir de choses qui viennent de Dieu. Puis là, il dit de toute ta force. Ta force, ça, c'est ce qu'il te donne au niveau de ta volonté, mais c'est aussi, évidemment, ce qu'il te donne au niveau de ta capacité d'accomplir. Puis, dans nos vies, on a rencontré quelqu'un qui prend un poids, puis il lève ça, puis ça pèse 100 livres, puis tu dis « wow ». Il y en a d'autres qui vont « Mais la force, ça, c'est pas rien que ça. La force, c'est la même personne qui a levé ça gros de même, peut s'effondrer devant une nouvelle, tandis que l'autre, elle va dire « Attends un peu, c'est un défi, ça, on va le remonter. » Alors, tu vois que la force, c'est pas la même chose pour tout le monde, et on ne doit pas espérer avoir la force des autres. On doit chercher celle qui est celle que Dieu nous donne à nous. Alors, Deutéronome 6, 5 nous dit bien ça, pour Dieu. Dans Proverbe 11, 30, ça dit, ça c'est pour notre prochain. Puis on sait que Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme soi-même. Alors on dit, le fruit que porte le juste est un arbre de vie. Aïe, 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 aïe. Le fruit que porte le juste, nous on a été justifiés par le sang de Christ, on doit porter ce fruit-là en nous. Puis c'est un arbre de vie. C'est quoi un arbre de vie? L'arbre de vie, c'est ce qui fait en sorte que quelqu'un va vivre. Alors, on a en nous ce qu'on a à offrir, c'est un arbre de vie. Puis dans Proverbes, l'auteur dit, « Et le sage gagne des âmes. » OK. Est-ce qu'on peut dire, ben le fruit que porte le juste est un arbre? Ça s'arrête là, il n'y a rien à faire. Ah non? Et on dit, « Et le sage gagne des âmes. » Mais ça sous-entend aussi que on porte le fruit, on est un arbre de vie, on est capable de témoigner, mais on n'aura pas, les œuvres préparées pour nous sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des prédicateurs qui ont amené des gens au Seigneur par foule. Le Seigneur, il dit pas qu'on doit tout amener des foules. Ah, tant mieux s'il disait, puis si on avait tout ce qu'il faut. Non, non. Mais il nous dit par contre, t'as un prochain. Puis, savez-vous c'est qui le prochain? Ça, c'est moi. À côté de moi, il y en a un autre. C'est le prochain. Puis après ça, il y a un prochain, puis il y a un autre prochain. Alors, tous les autres, à part moi, sont des prochains. Fait que quand il y a un prochain à côté de soi, ben on dit, attends un peu, faut que je fasse quelque chose. Dans Matthieu 16, 26, on dit pour soi-même. C'est une réflexion que Dieu nous demande de faire. Que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Oh, 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 oh. S'il perd son âme. Est-ce que je peux perdre quelque chose si c'est pas moi qui en a la garde? Si j'en ai pas la garde, je peux pas le perdre, c'est pas moi, là. Non, Dieu nous l'a donné, notre âme. Elle m'appartient. C'est moi. Puis il dit, prends soin de toi, mon homme. Ah, ben, m'attendre que les autres le fassent. Je suis pas prêt. On verra. Patata. C'est bien correct. Le monde est là. On voit le monde. On dit, ouais, non. J'ai assez d'affaires à regarder. Demande-moi pas de regarder ce que je vois pas, en plus. Et moi, je dis le contraire. Arrête de t'arrêter à ce que tu vois. C'est pas difficile. Tu le vois, il est là. Mets-toi à regarder à ce que tu vois pas vraiment. Parce que là, tu vas y découvrir qu'il y en a encore bien plus de choses qu'on voit pas que de choses qu'on voit. Alors ici, ça donne rien. Quand on dit gagner le monde entier, on parle pas rien que de gagner le monde, les gens. On parle de gagner le monde. On connaît tous ceux qui ont des projets de vie où ils prennent 100% de leur vie pour accomplir des buts qui vont rester dans la petite boîte ou dans l'urne. Puis dans ce temps-là, on trouve ça de valeur. Parce qu'on part pas avec ce qu'on a, on part avec ce qu'on est. Pourquoi qu'on travaille pas sur ce qu'on est? Arrêtons, c'est correct de travailler pour ce qu'on a, dans la mesure où on le partage, dans la mesure où on en fait bénéficier. Qu'est-ce que j'ai pas déjà reçu? Le Seigneur nous l'a dit, j'ai rien. Moi, j'ai reçu la couleur de mes yeux, la couleur de ma peau. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Il y a un petit bout que j'ai magané. C'était plus beau que ça avant. Mais, je l'ai quand même reçu, puis je dois être reconnaissant pour ce que j'ai reçu. On parle de gagner des âmes. C'est quoi gagner une âme? L'utilisation du mot gagner. On dit gagner sa vie à la sueur de son front, gagner la bataille, gagner son pain. On ne gagne pas la victoire sans y mettre une bonne dose d'effort et de concentration. Si on réalise pas que de gagner des âmes, il faut mettre un petit effort à ça. Ben, l'effort, c'est quelque chose qui nous fait souffrir, hein. Aussitôt qu'on fait un peu d'exercice, un push-up, on se vante, on est capable de le faire. Messieurs, mettez-vous en avant, faites-en 5. Certains d'entre vous vont le faire, mais quand même, je dis un autre 5, puis un autre 5, puis un autre 5. Là, on va dire, ouais, là, ça commence à être de l'ouvrage vrai, là. Mais il faut savoir qu'à partir du moment qu'on en fait un premier push-up, il va y avoir un effort à faire. Alors là, quand on veut gagner des âmes, nous, on n'est pas responsable, on va le voir. Mais il faut qu'on commence. Tantôt, on disait, faut faire un pour, faut avancer. Est-ce si différent pour les âmes? Non. C'est quoi maintenant? C'est instruire son prochain, afin qu'il vienne à la connaissance de la vérité de Dieu et qu'il soit régénéré. Mais c'est le Saint-Esprit qui opère la régénération de l'âme. C'est pas nous. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, à travers Jésus, à travers le Saint-Esprit, puis nous ensemble, il nous utilise, il nous demande de faire un pas avec lui. La semaine passée, on parlait avec Pasteur Daniel, il parlait qu'on avait des choses à faire, hein? On avait des tâches à accomplir, puis tout le monde en avait. Mais tout le monde a quand même, dans son entourage, que ce soit ses enfants, son voisin, sa famille, a à agir en chrétien, ce qui va faire en sorte qu'on va gagner des âmes. D'une certaine façon, on va voir un peu plus loin, on gagne des âmes pas seulement de même. Parce que quand on fait rien que ça, les yeux sont sur nous autres aussi. Alors, vous allez voir que gagner des âmes, c'est quelque chose que le chrétien a à faire dans sa vie chrétienne en tant que mandat ultime. Gagner des âmes, la suite. Ha! Vous voyez, moi je mets toujours un petit texte pour me suivre. J'espère que ça vous aide à suivre aussi. Il nous a sauvés dans Tite 3.5. Écoutez celle-là parce que c'est fort, parce que quand on réalise le pourquoi que Dieu nous écrit. À travers Tite, le Seigneur nous dit, « Il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. » Le Seigneur nous a sauvés par compassion. Moi, il faut que je fasse une déclaration. J'ai pas tant de compassion. J'en ai quand je m'arrête à dire « Regarde ». Là, j'ai de la compassion. Je peux avoir des larmes dans les yeux. Mais je peux passer souvent à côté du monde puis rien voir. Puis je peux même me faire attraper de temps en temps à pas avoir tant de compassion, à avoir plus de jugement que de compassion. Ben, s'il est de même, c'est son trouble. C'est à lui de faire d'allure. Quand ça sort, je dis, qu'est-ce que tu dis là, toi? Puis ça, je ne dis pas à voix haute tellement, je suis plus hypocrite que ça. mais je vous dirais que ça arrive. Puis dans ce temps-là, je demande pardon à Dieu. Parce que lui, comment est-ce qu'il m'a vu, moi? Aïe, je serais super gêné s'il fallait que des bouts de ma vie passent au screen devant vous autres. Je pense que vous autres aussi, vous aimeriez pas que certaines scènes de passent sur du screen de ce qu'on... Hein? Ben, comment qu'on fait pour avoir peur de ces choses-là, puis dire c'est vrai? C'est parce que c'est une réflexion, c'est un miroir de nous-mêmes. Fait que là, on dit, faut vraiment faire attention, mais faut savoir que le renouvellement du Saint-Esprit va se faire à travers une nouvelle naissance, parce que quand on a décidé de suivre le Seigneur, on est de nouveau, il nous l'a dit, on n'est plus la même personne. Ceux ici qui ont expérimenté ça, d'être une nouvelle personne, se questionnent de temps en temps puis disent, si je suis une nouvelle personne, comment ça se fait que je réagis encore comme la vieille qui est sur mon poids, que je traîne ses épaules? Ben, c'est parce qu'il y a un processus de sanctification aussi qui existe. Il y a un temps. Puis j'avais entendu une histoire d'un vieux capitaine de bateau qui était très rude, très rough. Puis finalement, les gars avaient tous développé une manière de l'éviter puis d'y compter des menteries. Parce qu'il craignait sa réaction. Puis un jour, il est arrivé un bon capitaine pour remplacer l'autre. Puis leur attitude pendant plusieurs mois a été la même qu'envers l'autre d'avant. Il comptait des menteries, l'évitait. Mais lui, c'est un capitaine qui, contrairement à l'autre, les aimait. Puis quand il faisait quelque chose pour eux, c'était pour les aider, pas pour les caler. Ça nous a pris un temps à comprendre. Puis le capitaine, pendant ce temps-là, lui se pose des questions. Comment se fait, moi, je suis bon envers eux puis qu'ils me traitent de même. Ben, le Seigneur est un petit peu de même, hein. Il nous a bénis, il nous a changés, il est bon avec nous autres, on continue à le traiter comme si, ben, il était peut-être pas là. Non, non, il est là. Faites-y confiance. Dans l'apôtre, les actes des apôtres, actions faites par les apôtres, ça a commencé bien des choses là. Pierre dit, parce que lui a parlé à travers Pierre, puis il a parlé souvent à travers Pierre pour nous dire des vérités. Mais merci Pierre, c'est l'autre Pierre. Il y a deux pierres, un en face de l'autre en plus, c'est deux pierres. Changer d'attitude. Quelle attitude? J'avais une attitude, je crois bien, on en a toute une attitude par rapport à la vie, par rapport au désespoir, par rapport au couple, par rapport au travail, par rapport à Dieu. Moi, je peux vous dire, hier, j'étais dans une funéraille catholique et malheureusement, c'était aberrant de voir l'attitude de gens non participants et non qui vont pas à l'église jamais, se mettent à participer à un rituel auquel ils adhèrent par crainte, mais que quand la porte change, so let's have fun, let's have a beer, let's go ahead. Tu sais, puis tu dis, ben ok, c'est un peu la vie, mais l'attitude. Quand on est chrétien, on ne peut plus avoir l'attitude de quelqu'un qui ne l'est pas. Pourquoi? C'est pareil comme si je dis, je lis un livre d'instruction comment monter et bâtir quelque chose de solide, et je lis une instruction comment faire de quoi, comment démolir quelque chose et l'amener au feu. Mais en chemin, je dis non, non, non. Moi, je lis les instructions du livre qui dit comment bâtir et comment être solide, mais je vois bien que par ma vie, tout ce que je fais, c'est ce qui est écrit dans l'autre livre. Faut changer d'attitude. Si vous n'avez pas suffisamment changé, posez-vous la question. Priez, demandez à Dieu de vous aider. Puis c'est bon pour tout le monde, là. Parce que dans nos vies, on a des attitudes à court terme, mais il faut avoir l'attitude à long terme qui est, oui, j'ai fait mon choix, c'est lui que je veux suivre, puis pour toujours. Alors on dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On sait que c'est par Jésus-Christ que nos péchés sont pardonnés. Alors quand on est baptisé en lui, ça veut dire maintenant qu'on lui appartient. Il nous a lavés. Puis maintenant, c'est lui qui a effacé nos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, encore le Saint-Esprit qu'on va recevoir. Moi, je parle à des gens qui me disent, André, j'ai pas l'impression d'avoir reçu le Saint-Esprit vraiment. Ah bon? OK. Je pourrais peut-être regarder à la vie et dire, ben, tu l'as peut-être reçu en partie, tu l'as peut-être mis de côté, mais je vais te poser des questions. Puis par la conviction de ce qu'ils me répondent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ça veut pas dire qu'ils le font toujours, ça veut pas dire qu'on le fait toujours, mais ils le savent. Alors là, on voit que si on veut vraiment agir et marcher dans l'esprit, faut l'écouter, faut l'entendre. Où aller cet esprit-là? Ben, est-ce que ça vous adonne de temps en temps d'aller lire la parole? Parce que vous allez voir que plus on va dans la parole, on se rend compte qu'on arrête de lire. Tout d'un coup, on est dans nos pensées. Le Seigneur est en train de te révéler une vérité, là. Des fois, ça fait 10 fois que tu lis ce passage biblique-là. Ça t'a jamais dit ça les autres fois. Mais là, ça donne, ta belle-mère vient passer la fin de semaine, puis t'es pas trop content, puis là, oups! Il y a une vérité qui vient de dire que là, tu dois être une maison accueillante. Tu dois pardonner à tout le monde. Alors ça, si c'est pas un don de l'esprit, il y a quelqu'un qui est en train de te parler, parce que la valeur de la vérité de Christ est dans son livre. Il nous l'a donné. Mais il nous a dit aussi qu'il y avait un consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est une personne, c'est Dieu. Et lui, on ne sait pas où il va et où il vient, mais on peut voir des manifestations. Puis plus on s'approche de Dieu, plus on va en voir. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, je vis des choses maintenant que j'avais jamais vécues avant, depuis que j'ai décidé de m'approcher de Dieu. Ça me surprend pas. Moi, si tu t'approches du meilleur joueur de tennis au monde, puis tu veux jouer, tu devrais apprendre quelque chose, là. Tu ne deviendrais pas jamais bon comme lui, peut-être, mais il va t'en donner des passages, lui, il va te le dire. Puis là, c'est rien qu'un exemple, mais Dieu est grand. Comment on voit si l'âme a été régénérée? Ça se voit par la conviction de péché. J'ai la conviction du péché. Je sais que je suis un pécheur. Quand je rencontre un chrétien qui me dit, ben moi, je suis pas vraiment un pécheur. Là, on va se parler un peu. On va se parler. Il y a une grosse tache sur ta robe, puis tu ne l'avouais pas. Tu penses que ça fait partie du décor. Toi, tu penses que la grosse tache qui est là, ben c'est comme un trou d'un jean, c'est supposé être beau. Y en a-tu qui ont ça? Mais c'est pour dire que, un, il y a la conviction du péché. Puis il y a une réelle repentance. Une réelle repentance, moi je me souviens d'avoir lancé une balle de neige glacée. Puis j'étais certain que j'étais pas pour le pogner parce qu'il était trop loin. Puis j'y ai planté ça d'un œil. Puis là, je me suis mis à pleurer parce que la dernière chose au monde que je voulais faire à ce petit gars-là, qui était un ami, c'était de le blesser. Alors j'ai vécu une repentance d'enfant, mais qui était « Non, j'ai pas fait ça » parce que là, je pensais qu'il allait crever un œil. Mais c'est cette repentance-là, moi, qui me revient souvent à l'esprit. Quand j'ai de quoi, là? J'aimerais ça me sentir de même. Pas dire, je suis repentant, Seigneur, je te demande pardon. Ouais. C'est fait. Tu te demandes, Non. Une vraie repentance. Alors, on dit, c'est dur d'avoir une vraie repentance. Ça vient pas sourd facilement. Il faut s'efforcer à connaître Dieu pour vraiment réaliser que oui, je suis pécheur racheté, puis je suis pécheur, puis j'ai une réelle repentance. La régénération, ça se voit aussi par une foi qui est simple. Faites attention à ceux qui ont une foi trop complexe, trop compliquée, qui sont prêtes à expliquer toute l'Apocalypse puis toutes les visions de Daniel, mais qui passeront pas à côté de toi pour aider quelqu'un qui souffre, qui prendront pas 5 minutes pour l'aimer, pour le couvrir, pour le protéger, parce qu'ils passent leur vie à vouloir savoir ce qui va arriver dans le futur. Qu'est-ce qu'il nous a dit de faire, le Seigneur, avec ceux qui veulent voir dans le futur? Évitez ça. On parle de ceux qui lisent la Bonne Aventure, puis ainsi de suite. Ce qui veut pas dire que de lire la parole de Dieu n'a pas son sens, parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce qu'il nous dit, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il nous dit. Mais il nous dit pas de vivre en fonction de ça. Il nous dit de vivre en fonction de l'amour. Il nous dit de vivre en fonction de lui aujourd'hui. Alors c'est pour ça, une foi simple. Si on est compliqué, moi je sais souvent, il y a des gens qui vont me dire, hier entre autres, j'ai quelqu'un qui m'a dit, « Ouais, mais toi c'est compliqué ton affaire. » Ah boy, ça j'aime pas ça. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce que je dis qui est compliqué? C'est peut-être vrai, là. C'est peut-être vrai qu'avec cette personne-là, ce que j'ai dit, c'était compliqué. Alors peut-être qu'elle n'était pas prête à entendre ce que j'avais à lui dire, mais ça me fait réfléchir. On le voit par un changement réel de vie. T'allais là, tu faisais ça, tu prenais ci, tu regardais ça, c'est fini ça. Si tu le fais de temps en temps, tu le fais, puis tu dis, oh boy, qu'est-ce que je viens de me mettre là dans le cerveau, parce qu'on imprime dans le cerveau ce qui rentre dans nos yeux. Puis des fois, une image, je sais pas si vous le savez, mais ça reste longtemps dans la mémoire. Des fois, on veut pas y voir ces images-là. Alors, c'est pour ça que un changement réel de vie. On voit aussi une régénération de l'âme, quand une communion avec Dieu est authentique durant la prière. Comment on peut dire que, mettons, j'aime ma femme, puis sais-tu quoi, j'ai pas de plaisir à y parler. Je n'ai pas de plaisir à communiquer avec elle. Je suis obligé, faut de temps en temps, faut bien, que si tu veux, elle me demande si je veux des toasts. Mais avec Dieu, là, il faut que ce soit authentique. Il faut que ce soit sincère. Pourtant, il y a des gens qui, comme on veut dans le monde, puis je parle pas rien qu'ici, mais il y a des gens dans le monde qui prient, puis c'est toujours des prières préécrites par d'autres, puis dis-les dans la même ordre. Non, non, c'est pas ça la prière. C'est vraiment une communion avec Dieu. Là, on voit une régénération de l'âme. Et on voit aussi le désir sincère d'obéir à Dieu dans tous ses commandements. Quelqu'un qui est régénéré, il a le désir de faire ça. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai dit à chaque fois, on est au bain du stock. Mais Dieu nous a donné des qualifications requises. OK. Dieu, il sait très bien qu'on n'est pas pareil. Puis premièrement, vous savez qu'il y a des possibilités innombrables de connexions, hein, entre des choses, les chiffres. Tu peux faire un exemple des œuvres d'art avec des couleurs. Tu peux écrire des choses extraordinaires avec l'agencement de lettres, de caractères. Ben Dieu, il nous a fait comme ça. Mais il y a certaines règles. Si on veut parler la même langue, ben il va dire un P avec un R, ça fait pfff. Puis il y a des mots qu'il va nous donner. Mais dans une autre langue, ça peut être d'autres choses. Alors, il nous a créés d'une façon et il s'attend qu'on agisse de même aussi. Alors, à ce moment-là, il nous donne des qualifications qu'on a besoin pour gagner les âmes. Un amour authentique pour Dieu. Tu peux pas, sincèrement, pas aimer Dieu puis être un gagneur d'âmes parce que tu le gagnes à quoi? Tu le gagnes à Dieu. Alors, et un amour fervent des hommes. Ça prend les deux. Faut aimer Dieu en premier, il faut aimer les hommes en deuxième. Après ça, une sainteté de caractère. Comment on peut avoir un caractère, je vais donner l'exemple, colérique, envieux, qui fait toutes sortes de choses qui est pas comme il devrait être s'il n'y a pas de sainteté là-dedans. La sainteté, ça ne veut pas dire de toujours se promener les mains comme ça puis avoir l'air d'un moine, mais c'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est que tu vois quelqu'un et tu le regardes dans les yeux, tu dis « Hey, comment tu vas? Je suis content de te voir. » Mais c'est pas de l'hypocrisie, c'est que tu es content de le voir. Si tu le connais pas, je suis content de te connaître. Parce que c'est une création que Dieu a faite à ton image, à son image, puis on est de la même souche humaine. Il est différent, il a l'air de... Mais, attends. Alors, c'est pour ça. Une sainteté caractère, une vie spirituelle d'un degré... élevé. C'est quoi une vie spirituelle d'un degré élevé? Les gens qui se disent spirituels, ils se disent quoi? Ah, oh, moi, je dis des beaux mots, j'agence tout bien ça. C'est pas ça d'être spirituel. Spirituel, c'est de vous rechercher l'Esprit de Dieu. Et là, lui, il va te donner, qu'on a vu tantôt, le Saint-Esprit qui va élever ton âme, puis là, tu vas avoir une spiritualité plus élevée. Bien, plus elle est élevée, plus tu vas marcher, plus tu vas agir, puis plus tu vas être un gagneur d'âme sans même avoir ouvert ta bouche pour en faire gagner un. Puis ça, c'est important. Un esprit d'humilité. Ça, l'humilité, c'est quelque chose de particulier. L'humilité, il y a la fausse humilité. Il y a l'humilité qui paraît bien aux yeux des autres. Comment qu'on peut avoir une humilité qui paraît bien aux yeux des autres? C'est peut-être qu'il y a un petit manque d'humilité, là. L'humilité, il faut qu'elle soit, c'est un esprit d'humilité. Tu rencontres quelqu'un, puis dans la parole, c'est clair, hein? Dieu nous dit de considérer les autres plus grands que nous, d'être à leur service. Mais moi, quand je vois un restaurant, puis le serviteur me regarde de haut comme si j'étais un trou de oui, je m'excuse. Ça marche pas de même. T'es un serviteur, moi, je dois le respecter, mais lui aussi. Alors ici, ben, un esprit d'humilité, c'est quand tu considères les autres qui ont une valeur, une grande valeur. Ils ont une valeur pour Dieu, souviens-toi-en. Fait que s'ils ont une valeur pour Dieu, mais ils ne connaissent pas, ils ont quand même une valeur pour lui. Et si Dieu a permis que ton corps bouge puis qu'il se rapproche d'une personne, c'est pas pour le porter un jugement contre lui puis le mépriser. Sinon, pose-toi la question, peut-être t'as pas toutes les qualités. Je veux pas être un accusateur trop aujourd'hui, là. Parce que tout ce que je vous dis, ça s'applique à moi, là, parfaitement à moi, là. Mais je sais que ça s'applique à d'autres aussi. Puis on finit par une foi vivante. Pourquoi vivante? C'est qu'une foi, moi je peux bien dire j'ai la foi. Me fait dire des fois par des gens, ah toi, t'as la foi. OK, je dis pas non. Mais combien de fois, moi, je me dis, ouais, si j'avais eu la foi, gros comme un petit bout de moutarde, un petit grain de moutarde, ça serait réalisé aussi peut-être. La foi qui est pas en action est morte. Alors on dit une foi vivante. Ouais, à 11h10, ça va finir. J'espère, à tout le moins. Les qualifications requises, il y en a encore. Pleine d'ardeur. Ça prend de l'ardeur. Tantôt, je voyais mon frère annoncer, puis tout, puis je disais, oh, la jeunesse, ça a de l'ardeur, ça. Je pensais de m'en garder un petit peu. Ça prend de l'ardeur. Une grande simplicité de cœur. Une générosité remarquable. Tu peux pas être mean and cheap, regarder à toi, pas donner rien, puis que les gens espèrent devenir comme toi, parce que tout le monde aime recevoir. Fait que là, tu dis, ben, si un chrétien, c'est ça, j'aime autant pas l'être. Alors, on dit, on gagne des âmes, mais il y en a d'autres, on les perd pas parce qu'ils ont jamais été gagnés, mais on les cale dans le trou pas mal, par exemple. Hein? On vient de creuser encore plus creux, au lieu de devenir un exemple pour eux autres. Un message toujours rempli de Christ. Ça, là, ça m'a, les deux derniers, là, un message toujours rempli de Christ. Je m'excuse pour ceux qui parlent d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais le droit de dire quelque chose à propos de nous. Mais il faut savoir qu'on représente un ambassadeur. On est ambassadeur, puis ambassadeur pour le roi. Alors, il faut parler du roi. L'ambassadeur qui dit moi, puis moi, puis moi, puis moi. Ben, pas sûr que vous vous déplacez aujourd'hui pour entendre parler de moi. Même, je suis bien sûr que si vous saviez que je parle juste de moi, ça ne vous intéresserait même pas de venir, parce que vous venez ici pour entendre parler du grand roi qui est Christ, qui est notre sauveur. Amen et amen. Puis ça, ben, il faut que ce message-là soit rempli de Christ. Rempli de Christ, c'est pas toujours de dire, ah ben, Christ a dit, puis dans parole, Christ a dit. Non, non, pas seulement ça. La vérité que Christ a dit. L'action que Christ a dit. Ça, c'est ce qui parle. Parler davantage ou autant par nos actions, par la véracité de notre façon d'être, par le vrai qu'on est. On est vraiment des enfants de Dieu. On est vraiment été rachetés par lui. Puis je vais vous dire, on est assez dur de comprenure. Même quand on le dit à notre tête puis qu'on le répète à notre monde, souvent notre cœur, il est pas même là. Faut se le rappeler souvent. Fait que ça, c'en est un. Et le dixième qui est un abandon total à Dieu. Boy, oh boy. Ça m'arrive de dire, je prends tout, Seigneur, comme la louange nous dit de le faire. Mais il m'a dit, comme Pasteur Luc disait l'autre jour, prends tout, mais on repart une partie de la charge. On s'en garde un peu. Il y a des choses qu'on dit, prends tout, mais ça, dans le fond, Seigneur, t'as pas besoin de ça, toi. Pourquoi tu le prendrais? Pourquoi je te le donnerais? M'a t'encombré? Ah non. Tout, c'est? Tout. Tout, c'est tout. Il y a des obstacles qu'il faut remonter. Des obstacles quand on veut gagner des âmes. Il y en a beaucoup. Je vais aller un peu vite parce que ça, vous les connaissez en partie. Mais la raison pourquoi j'en parle, c'est que si je sais qu'il faut que je me rende en quelque part, puis je sais que je vais avoir en vélo 3 montagnes à monter, puis 2 sentiers, puis une place, là, le chemin, là, il y a des branches, puis c'est étroit. Ben, si je le sais, je me prépare. Quand on était petit, on partait en voyage, puis c'était un petit peu long, on disait, quand est-ce qu'on arrive, maman? Ce sera pas long, mon chéri. Eh, tabarouette. Une fois, c'était un voyage de 6 heures, je commençais à le demander après une demi-heure. Mais, plus tard, quand elle me disait, là, on va rouler dans la voiture, on va manger une sandwich, après ça, on va arrêter, puis là, après ça, ben c'est drôle, j'étais moins anxieux de dire quand est-ce qu'on arrive. Ben, je m'étais préparé psychologiquement à avoir un voyage. Mais ben là, il y en a un là-dedans, il y a un voyage. On peut pas parler aux gens de Dieu qui, dans leur vie, ont pas fait de place, qui, dans leur vie, ont toutes sortes d'obstacles. L'indifférence, eh bien, les gens que Dieu garde, moi là, mon nouveau 4 roues, ma job, ça c'est important, mais Toi, là, tu m'arrives avec un sujet, là. Aujourd'hui, c'est pas le temps. La léthargie de l'homme qui est pécheur, je garde, ben non. L'incrédulité, je crée pas à ça. L'orgueil, I know. Ma justice, mes affaires. La procrastination. Ça n'a rien à voir avec la prostate, je vous le dis tout de suite. C'est remettre à demain. Remettre à demain, c'est remettre à demain. Puis à chaque fois, ben, je suis pas pressé. Combien j'ai parlé, moi, à des gens qui me disent, ben là, je suis encore jeune, écoute, t'es en train de me dire que tout ce que je fais, je pourrais pas le faire, là. J'ai une couple de dates en chemin, là. C'est correct, mais c'est de la procrastination. Puis un jour, il n'y en a plus de procrastination. La journée que c'est le jour que c'est fini, c'est fini. Le désespoir, c'est vrai. Le désespoir fait que des fois, les gens ils disent, ah, regarde, là, j'en ai assez, là. L'amour du péché. Certains, c'est des péchés cachés, là. Tantôt, je parlais d'un jeune à qui j'ai parlé, puis il me dit, ouais, ben là, mon oncle, ça donne que c'était un neveu. Il était jeune, puis il dit, ben là, mon oncle, toi, t'appelles ça des péchés, moi, j'appelle ça du fun, là. Fait que laisse-moi aller, puis quand j'aurai ton âge, quand ça marchera plus, là, je vais y penser. Ça peut peut-être marcher plus longtemps que tu penses, mon jeune. Fait que fais attention des péchés. Sa propre justice. Ça, c'est une que moi qui me frappe beaucoup, parce que quand je commence à parler à quelqu'un, il se dépêche à m'enseigner. Leur justice. Puis là, leur justice, c'est qu'on a un Dieu qui est injuste. Parce qu'il permet les enfants de souffrir. Il y a beaucoup de choses, là. Alors, la justice de l'homme, c'est quelque chose qui est assez un obstacle. Les soucis, puis les soucis des choses du monde, évidemment aussi. Les habitudes, les loisirs, les cercles d'amis. Pour ça qu'on dit, tenez-vous ensemble. Il y a une raison. Quand que Dieu nous dit, tenez-vous ensemble, il a créé une église. Il a parti à partir d'une petite gang. Aujourd'hui, la petite gang est plus grosse. Ben, justement, il y a de quoi nous dire. Mais nous, on a de quoi se partager. Oui, des fois, quelqu'un va nous partager quelque chose, il fait pas notre affaire, il nous blesse. Ben, le Seigneur, il dit, garde, moi, j'ai été blessé plus qu'en masse aussi. Pour toutes sortes de façons. Alors, comment gagner des âmes? On va aller vite là-dessus. Parce que, écoute, c'est pas un cours comment gagner des âmes. Dans le sens que c'est pas un cours, mais je dis juste que faut faire une réflexion à savoir que le voyage qu'on va faire, il va avoir un prêt à payer. Alors, on commence par faut réfléchir à propos de la personne. Cette âme que je désire amener au Seigneur a vécu des choses particulières. Ça ne veut pas dire qu'on les connaît toutes, mais si je suis dans la rue avec, un peu comme Joanne et Josier, avec des itinérants, je me doute que ce qu'ils vivent, c'est différent que l'avocat au bureau au 12e étage. Ils vivent pas des mêmes affaires. Alors, il faut réfléchir un peu. Après ça, faut toujours agir et répondre avec grâce, sans s'inquiéter et avec confiance. Comment je peux avoir confiance dans ce que je dis si je me suis jamais arrêté à savoir si je pense que ce que je dis ou si je fais juste dire des choses que je pense pas? Et là, c'est important. Faut apprendre à agir puis à répondre avec grâce, sans s'inquiéter. Il faut se souvenir à chaque instant que nous annonçons, ce que nous annonçons, c'est vital. On l'oublie, ça. Vous savez, j'avais déjà donné l'exemple de l'enfant qui roule autour d'un trou qui mène dans la cave, là. Il n'y a pas rien autour, là. Il faut pas être un grand prophète pour savoir qu'il y en a un de la gang des jeunes qui va courir, qui va tomber dans le trou. Mais quand tu en as vu un tomber en bas, la tête sur le ciment, puis qu'il y a une flaque gros de même de sang, ça prend pas un grand cœur, là, pour dire, je vais en empêcher un de tomber. Va donc mettre un garde-corps, bouche le trou, fais quelque chose. Puis ça devient un état d'urgence. Parce que c'est vital. Mais nous, on le sait, on la connaît, la vérité. On sait ceux qui la connaissent pas. Ils vont vivre quelque chose de très, très malheureux. Puis si on les aime, on le veut pas. Ouais, mais tu sais, les enfants, il y a un trou grand, grand. J'ai pas assez de clôture pour mettre autour, puis je peux pas tous les empêcher de courir. Et voilà. Peut-être. Mais si on est une gang qui se met autour entre chrétiens, on va peut-être en bloquer un petit peu plus. Alors là, ben, ça, c'est un moyen de se souvenir que ce qu'on leur dit, c'est vital, puis c'est important pour eux. Nous, faut s'en souvenir. Eux, peut-être qu'ils vont le mettre de côté. Faut jamais désespérer. Ça m'arrive de me désespérer. Quand ça fait 20, 25 ans, tu parles à quelqu'un, puis il te donne la même réplique que la première journée que tu y as parlé, Ah, oh boy, ça va être dur. Désespère pas. Faut jamais abandonner la tâche, même si c'est une tentative qui échoue. Faut pas se laisser abattre par la méchanceté du riche. Des fois, les riches n'y arrêtent pas. Faut pas se laisser abattre par ça. Ou par, souvent, l'ignorance du pauvre. Quand on dit l'ignorance du pauvre, c'est pas que les pauvres sont ignorants, mais les pauvres ont beaucoup de choses qu'ils n'ont pas de joie à avoir. Alors, ils ignorent certaines choses. Ils se l'imaginent, mais des fois, ils l'ignorent. Et ils vont arriver avec des réponses de temps en temps qu'ils veulent, tu sais, ils sont tellement blessés dans leur pauvreté que c'est comme ton Dieu, il est pas bon, tu sais. Il y a beaucoup de choses comme ça. Puis il faut, le septième, on dit, puis regarde, c'est un de quatre en passant, fait que vous voyez qu'il y en a encore trois d'autres. Il faut pas précipiter les choses. Dieu se sert du temps. Celle-là, j'ai plus de misère avec, moi. J'ai plus de misère avec. Mais il faut que je m'en souvienne. Il n'y a pas une seule façon de présenter le Seigneur. Pour ceux qui vont dire, hey, venez, après, là, on va tout vous expliquer comment. 1, 2, 3, 4, 5, c'est fait. Non, non. Il n'y a pas une seule façon de présenter le Seigneur. Il faut continuellement garder à l'esprit que la conquête d'une âme peut nécessiter un labeur pénible. Qui est prêt à souffrir pour sauver une âme? Levez la main. Il y en a, hein? Je sais qu'il y a des mains qui lèvent petit. Parce que souffrir, c'est un mot qu'on n'aime pas. Puis là, je suis en train de dire à Dieu, « Hey, fais-moi souffrir, Seigneur. » Non, non, c'est pas ça qu'on dit. C'est que, tantôt, je dis le push-up, hein, ça donne des petites brûlures dans les bras, hein? Bien, à un moment donné, il faut être savoir que sauver des âmes, même si c'est tout par l'esprit que ça se fait, toi, t'as pas à faire ça, mais t'as des gestes à poser. S'il faut que tu te rendes dans quelque part, puis il y a un escalier, ça se peut qu'à la 8e marche, ça commence à chauffer dans les cuisses un peu, mais garde, tu veux te rendre là, fais-le. Il faut continuellement garder à l'esprit qu'il y a du labeur pénible. Il ne faut pas se surprendre que nous aussi ayons à souffrir, comme l'a clairement indiqué l'apôtre Paul à Timothée. Paul a parlé à Timothée parce que Paul savait. Puis Timothée était pour le savoir, lui aussi. Alors on dit, Paul, il dit, c'est pourquoi je supporte tout. Qu'est-ce qu'il dit? Tout. Je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis. Pas ceux que moi j'ai choisis. Ceux que Dieu a choisis. Je supporte tout. Alors, eux aussi seront sauvés par le Christ Jésus, et ainsi, ils auront la gloire qui dure toujours, le salut éternel. 2 Timothée 2,10. Si lui dit qu'il a fait ça, on dit, ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est l'apôtre Paul. Moi, je suis pas l'apôtre Paul, je suis Tipol. Puis Tipol, c'est pas l'apôtre. Non, mais Tipol, il est fait exactement comme le grand Paul. Il était pas le grand Paul quand il a commencé, c'était un tueur de chrétiens. Fait que, tu sais, dans le fond, il a compris qu'il a fait souffrir, il a compris que Christ a souffert avant lui, puis il a compris que lui, s'il fallait, qu'il aurait à souffrir, mais qu'il le ferait. Il faut se revêtir de la puissance de l'Esprit de Dieu. Retournons dans nos Bibles, regardons. Il faut que notre comportement puis notre conversation forme la plus puissante partie de notre ministère. Mais ça a commencé par notre comportement. Je peux pas dire que je suis si je ne le suis pas. Si moi je dis je suis un bon parfum, puis quand je rouvre la bouteille, tout le monde lève le cœur, c'est peut-être pas un bon parfum, sauf pour les moufettes. Fait que là, ça veut dire que c'est important, ça. Il faut que nos actions. Pour ça que je dis que tes bottines suivent tes babines. Ah, celle-là, on la connaît, celle-là. Je savais pas que c'était biblique. Ben, oui, indirectement, c'est biblique. Le Seigneur n'a pas employé ces mots-là, par exemple. Fait que si vous dites, il est écrit dans la Bible que tes bottines suivent tes babines, j'ai pas trouvé le passage biblique exact qui dit ça. Puis il faut que votre témoignage soit rempli. Oh boy, là, c'est quelque chose, là. Que mon témoignage soit rempli du fruit de l'esprit. Car ce fruit devient des bénédictions spirituelles pour les autres. Toi, tu l'as le fruit. Comment tu peux être une bénédiction si tu n'as pas le fruit? Tu peux pas bénir parce que c'est le fruit lui-même qui bénit. Alors, votre vie visible est en quelque sorte le fruit du chrétien digne du caractère de Christ. Alors, ça le prend, ça. Comment gagner une âme? Ça finit par Galates 5:22. Tout le monde connaît Galates 5:22. Je dis tout le monde, mais tout le monde devrait pas tant de se souvenir du fait que c'est Galates 5:22, c'est comme des galettes qui sont bonnes au restaurant. Non, non. Galates 5:22, ça dit « Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. » Alors, il y en a qui disent « Je sais pas moi si j'ai reçu l'Esprit. Qu'est-ce que tu produis? Est-ce que tu produis l'amour? La joie? La paix? La patience? La bonté? Le service? La confiance dans les autres? La douceur? La maîtrise de soi? » C'est drôle, hein, mais dans une fraise, il y a du goût. Puis si on se mettait à enlever les particules qui font le goût, ça goûterait pas la fraise. Ça goûte la fraise parce que ensemble, ça goûte la fraise. Ben, si on veut le fruit de l'esprit, tu peux pas dire, ah, non, moi, j'ai la joie. Moi, j'ai la joie. Hey, vas-tu cette année, lui, es-tu fatiguant? Attends un peu, là. T'as pas la patience, là. Hop, oh, pis t'as pas trop confiance dans les autres. C'est un tout, ça, ce goût-là. Tu sais, nos mères faisaient des recettes extraordinaires que nos femmes essayaient de reproduire avec les mêmes ingrédients, pis ça goûtait pas la même chose. Ben, disons que une recette, c'est une recette. Les quantités, la façon, le chaudron, ben Dieu nous les donne, ça. Fait qu'aujourd'hui, Galates 5:22 nous dit comment on doit être pour gagner les âmes. On n'est pas parti encore à la guerre, on n'est pas parti dans le champ, là, on est juste « je veux gagner des âmes ». Ben, commence par ça. Ça, c'est la recette qui va faire en sorte que le monde va dire « c'est bon ». Ben oui, c'est le meilleur fruit qu'on a jamais vu. Paul avait des grandes méthodes. Je suis à la bonne place, là, moi? Oui. On est rendu à la 16. Les grandes méthodes de Paul. Vous allez voir que Paul, Jésus l'a choisi. Puis sa méthode à lui, c'était ça. Un, la simple prédication de l'Évangile de Christ. C'est pourtant, Paul, il est pas si simple que ça. Quand tu lis tout ce qui est écrit, oh boy, attends, il a commencé à parler à tout le monde de ce que Christ a fait dans sa vie, de ce que Christ a fait, qui est mort pour nous. Puis c'était simple, il est venu expliquer un message que le monde attendait, il n'avait jamais entendu parler de ça. Certains Grecs ont dit « What is he babbling about? » Qu'est-ce qu'il est en train de raconter celui-là? Parce qu'il était à la recherche de nouvelles pensées. Mais ça, c'en était une assez particulière. Il parlait de Christ, Sauveur, un évangile. Paul avait une abondance de prières. Souvent, il dit qu'il avait prié pour eux, puis il priait pour eux, puis il pensait à eux tout le temps, puis il priait. Alors, il y avait une recette. Il prêchait la parole, il priait, puis il avait une intense compassion pour les personnes qu'il contactait. Une intense compassion. Est-ce qu'on a de la compassion? Moi, j'entends, puis de temps en temps, je demande pardon à Dieu, quelqu'un va venir me témoigner de quelque chose que je sais qu'il le blesse, je sais qu'il vit quelque chose de difficile, parce que j'avais 2-3 autres affaires à faire, 2 minutes après, j'ai déjà oublié. Ah, je m'en souviens quand je me mets à prier, puis je dis « Seigneur ». Mais n'empêche que lui, il avait une compassion intense, pas une petite compassion, là, une compassion intense. Alors, ça, c'est Paul. On n'est pas tous parfaits, puis on n'est pas tous pareils, puis tout ça, mais c'est des bonnes mesures, des bonnes manières, tu vises ça. Avoir une compassion nécessite une attention, nécessite un cœur, nécessite un amour pour l'autre, nécessite le désir de vouloir alléger sa charge, sa croix. Quand tu as tout ça, tu commences à avoir de la compassion. Ah! Là, ça commence à faire effet beaucoup. Puis Paul, lui, avait ça. Alors, on peut se fier à ça. Je termine parce que il y a un homme, moi, qui, dans ma vie, m'impressionne beaucoup. Diapo 17, la dernière. On va finir avec une prière parce qu'on peut pas finir ça demain. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon est un pasteur, un évangéliste qui a vécu, il y a de ça, 127 ans. Vous liriez ce qu'il écrit, vous diriez, coudon, lui, il a écrit ça, ce journaliste-là, hier, quoi. Parce que dans ses propos, c'est encore exactement la même chose. Et c'est un homme qui a vécu de 1834 à 1892. Ça fait qu'à l'exception de quelques-uns d'entre vous autres, qui l'avaient peut-être connu, la majorité ne l'ont pas connu. Tu étais à l'école avec? Bon. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il t'a enseigné?
Oui, pour ça, je sais.
OK. Alors, lui, je vais vous... Trois petites citations. Faut se rappeler que les âmes ne sont pas désespérément perdues. Elles peuvent être gagnées car elles résident encore dans le pays de l'espérance, où la miséricorde peut les atteindre. C'est beau, ça. Parce que souvent, on dit, ouais, le monde, c'est pourri. Ça marchera pas, tu sais. Mais lui, il dit, garde, c'est pas désespérément perdu. Puis on vit vraiment dans un pays à cause de Christ, de l'espérance, puis de la miséricorde qui peut encore les atteindre. Il dit aussi que le serviteur de Dieu fait l'éloge de son maître. Puis il demande aux âmes, voulez-vous épouser Christ? Il y en a ici qui se sont mariés un jour. Vous savez c'est quoi épouser? Il y a quand même quelque chose, un désir qu'il faut qu'il soit là, là. Si c'est rien que pour avoir, je sais pas quoi, c'est pas la bonne affaire. Alors on dit, voulez-vous épouser Christ? Celui qui réussit dans ce délicat, dans ce rôle délicat, est un homme sage. Oups! Ça nous ramène tantôt dans Proverbe 11:30, qui disait à propos de la sagesse, celui qui gagnait des âmes. Alors l'homme sage détourne effectivement, réellement et vraiment les hommes de l'erreur de leur voie vers Dieu. Il les détourne vers Dieu. Il sert ainsi à les sauver de l'enfer. Puis il y a une autre affaire qu'il a dit, qui est, il faut obtenir. Pour obtenir quelque chose, des fois, faut vouloir l'obtenir. Tu sais, s'il y a une belle grappe de fruits, puis je dis, je veux l'obtenir, mais t'attends, t'es tiré ton bras par la poignée. Alors, prends-en, il y en a, sont là, mais il faut l'obtenir. Alors, l'exercice d'une habilité que seul Christ donne pour remporter le cœur de l'homme par la force de la grâce. C'est seulement Christ qui va te donner la grâce pour aller justement obtenir le cœur, pour capturer et briser les liens, briser les barreaux, la fonte et les portes d'acier qui retiennent cet être-là. Lui, ce Charles Spurgeon, c'est évidemment, il écrivait en anglais, traduit en français. Vous avez vu des gens composer des œuvres extraordinaires, vous avez vu des gens peindre des portraits extraordinaires, avec les mêmes couleurs que tu vas mettre sur ma palette, moi, on va faire un beau dégât, eux autres vont faire de quoi de vraiment beau. Cet homme-là, Dieu lui a permis d'agencer les mots, les idées, de sorte que qu'on grandisse juste en le lisant. J'invite ceux qui veulent lire du Spurgeon, attelez-vous un peu, par exemple, parce que c'est du texte sérieux, un livre qui, normalement, vous allez lire en une heure, ben avec lui, pensez à 10 heures si vous voulez vous arrêter un peu, parce que il y a du stock. Mais c'est un homme que je rends grâce à Dieu d'avoir mis dans la vie de la chrétienté pour ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, mon désir sincère, c'est pas de mettre un poids, un burden sur qui que ce soit, puis dire, ben c'est ça. C'est moi, si je ne vais pas gagner un homme demain matin, non, ça n'a rien à voir. C'est d'être ce que nous devons être avec le caractère de Christ, avec le fruit de l'Esprit, de témoigner de Christ quand c'est le temps, aux bonnes personnes, de la bonne façon, avec espoir, avec courage, avec endurance, sachant qu'on marche dans le bon chemin. Puis après ça, soyez pas surpris des résultats, l'Esprit Saint va agir. Puis un jour, ça cogne à votre porte. Moi, ça m'est arrivé, puis à l'occasion, puis je me considère mais nullement un gagneur d'âme en nombre, mais n'empêche, puis il y a quelqu'un que j'avais jamais eu connaissance d'avoir témoigné tant que ça, qui est venu m'annoncer qu'il avait accepté le Seigneur dans sa vie, qu'il avait mis de l'ordre dans sa vie, qu'il s'était marié, qu'il avait des enfants, puis il dit, c'est à vous que je voulais le dire. Parce qu'il dit, un jour, vous m'avez parlé comme je parlais à bien du monde, puis c'était pas plus à lui qu'à d'autres que je parlais. Mais le Seigneur, c'est à lui qui parlait. Alors ça, quand on l'a, m'a dit, j'ai des frissons quand j'y pense. Pourquoi? Ben parce que. Ça vous satisfait-tu, ça, comme réponse? Parce que. C'est parce que. Mon cœur, il y a de la joie là-dedans. Alors je vous dis, je souhaite la même chose, puis Dieu, non seulement il souhaite, il nous donne tous les outils. On va finir par une prière. Glorieux Père Céleste, je te rends grâce, Seigneur, de parler à nos cœurs aujourd'hui, de nous donner cet élan, cet amour, cette joie, pour aller de l'avant vers toi, aller d'avant vers ceux qui ne te connaissent point, de faire en sorte qu'on puisse briller dans ce territoire, briller dans nos vies, dans nos familles, d'avoir la patience, la tolérance, et de savoir que toute guerre ne se gagne pas dans une seule journée, mais que toi, tu agis. Aujourd'hui, bénis notre assemblée. Bénis-la en lui donnant tout ce qu'elle a besoin d'avoir pour être dans tes voies à toi et d'accomplir la mission ultime que tu voulais qu'elle accomplisse, celle de gagner des âmes pour toi. Père Céleste, merci pour les occasions, pour la joie, pour la fraternité, pour la grande famille et la famille Le Contact. Merci pour tes bontés, ta provision divine. Et Seigneur, on demande une double dose de l'Esprit afin d'accomplir ce que tu as en réserve pour nous. On t'a prié aujourd'hui dans le nom précieux de ton Fils Jésus, qui est mort pour nous. Amen.